divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Alain Lorek, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste en ce mois d'août 2021 pour aborder une question sur laquelle votre expérience d'ancien directeur chargé des pêches et de l'aquaculture à l'Ifremer, de directeur honoraire au sein du service de la Commission européenne chargée des pêches et de citoyen attentif, est précieuse, celle de la pollution du milieu marin et des remèdes qu'il est possible d'y apporter. En rationaliste, vous avez coutume de montrer la difficulté de cette question, des pollutions marines, où il est impérieux d'éviter les simplismes.
Je me réjouis de la prise de conscience des problèmes environnementaux, mais j'ai le sentiment que le plus souvent, on en parle mal. Les actions de vulgarisation sont cruciales, mais la tâche est immense et difficile. En mer, la difficulté est accrue par le fait que les écosystèmes marins ont une organisation très différente de leurs homologues terrestres et que ce sont des spécificités mal connues que le grand public, comme beaucoup d'écologistes qui ne connaissent pas les réalités marines, ont une manière de rémanence rétinienne qui les empêche de prendre en compte les spécificités de nos univers marins.
Mmh. C'est ce qui explique le simplisme, les réductions.
Le simplisme crée une atmosphère de catastrophe généralisée en présentant les mers comme des cloaques, en mêlant des problèmes majeurs et des problèmes anecdotiques mais facilement médiatisables. Ceci empêche pour moi de concentrer les énergies sur ce qui est grave et sur les remèdes réalistes. Au passage, j'ai l'impression qu'on oublie parfois que l'essentiel des pollutions marines est transmis par les eaux douces et que mieux vaut intervenir en amont que de courir après les déchets en mer.
Ce que vous nous dites, c'est que quand on parle d'écologie marine, par exemple, le terme est faussé parce qu'il faut parler de l'eau qui vient aussi des rivières.
Parce que nous sommes dans un univers unis et que les activités humaines affectent le milieu marin le plus souvent, non pas directement, mais transmission par les eaux douces. Je voudrais prendre un exemple. La question des déchets plastiques. Nous avons bénéficié d'un exposé de M. Dandonneau qui a eu le mérite de faire une revue et il montre clairement que les macrodéchets ne forment pas les nappes denses et énormes souvent évoquées sous forme de 7e ou de 8e continent. Mais à l'inverse, il existe des formes diffuses, insidieuses de microdéchets.
Qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est loin des yeux, loin des pleurs.
D'accord.
Les relations entre les questions de protection de l'environnement et les aspects socio-économiques me paraissent particulièrement mal présentées. On entend dire qu'il y aurait des solutions dites gagnant-gagnant et que seuls certains lobbies malfaisants refuseraient. C'est le plus souvent un mythe dangereux. De l'autre côté, on oppose l'économie à la sauvegarde de l'environnement et c'est aussi faux. La question de base est souvent celle des échelles de temps. Il faut des délais pour que l'impact des activités humaines sur l'environnement devienne grave. Il faut du temps pour que des mesures de protection portent leurs fruits. Si les actions rigoureuses sont décidées, avant que les bénéfices en soient tirés, nombre d'acteurs économiques craignent d'avoir été emportés par leurs difficultés financières. Les politiques rigoureux auront perdu les élections au profit de leurs rivaux laxistes. Quand on est un fonctionnaire qui repose sur le moule oreiller des crédits publics, on peut toujours parler dans l'absolu, indépendamment des échelles de temps. Mais pour les acteurs économiques, pour les politiques, ces questions d'échéance sont cruciales et je trouve que on n'en parle pas assez.
Alors, j'aurais bien aimé qu'on aborde ensemble la question des algues vertes, si préoccupantes dans certaines baies des Côtes d'Armor notamment, mais peut-être pas seulement. et à laquelle Inès Leroux et Pierre Van Hove ont consacré un très bel album chez Delcourt, Algues vertes, l'histoire interdite. C'est une question difficile aussi, non pas tant d'un point de vue technique, je crois, que d'un point de vue politique, là encore.
Cette question, elle est révélatrice de difficultés d'ensemble que notre société éprouve pour apporter des réponses adéquates. Il n'y a pas de vrai mystère technique, mais des décennies de retard ont été accumulés, qui sont bien illustrés par la BD que vous évoquez, qui rappelle que les premières conclusions sur les teneurs en nitrate des eaux douces de Bretagne qui augmentaient datent de la fin des années 70.
Oui.
Les travaux d'Alain Ménès-Gouen ont établi il y a plusieurs décennies quel était le mécanisme qui générait les marées vertes. Ils ont précisé les seuils qu'il faudrait atteindre pour que le phénomène cesse. Notre société a globalement été inefficace et je trouve même que le monde de la recherche, dont j'ai fait partie, a probablement manqué de solidarité pour se lever face à ceux qui venaient nier les évidences. Les océanologues n'ont jamais douté de la validité des travaux d'Alain Ménès-Gouen. Outre le fait qu'il a subi des mises en cause certainement pénibles,
comme Inès Leroux d'ailleurs,
le refus des réalités n'a fait que perpétuer des illusions dans le monde agricole, qui se sont suivies de désillusions cruelles. Certains agriculteurs soulignent ainsi, avec frustration, qu'ils ont déjà fait des progrès, mais on occulte le fait que la réduction des taux en nitrate est bien en deçà de ce que les travaux d'Alain Ménès-Gouen ont démontré il y a longtemps déjà. Il ne faudrait pas qu'on continue à nier le phénomène. Je me permets de faire référence à mon domaine propre, à savoir la gestion des pêches, où j'ai vécu un mécanisme analogue. Les diagnostics de surexploitation de nombreuses ressources existent depuis les années 70.
Oui.
Ils ont été précisés, confortés dans les organismes internationaux, appuyés par de nombreuses publications scientifiques. Et pourtant, au début des années 2000, un candidat à la présidentielle a accepté, à la demande des professionnels de la pêche, de demander à l'Académie des sciences une contre-expertise.
Oui, pour gagner du temps.
Qui a, comme attendu, confirmé les diagnostics. Perte de temps. J'ai noté dans mes années bruxelloises que les flics les plus efficaces, à terme, ce ne sont pas celles qui se contentent de canaliser les sentiments et les revendications de leurs adhérents, mais c'est celles qui s'attachent aussi à leur faire accepter des vérités désagréables. Et nous ne progressons pas tant que nous n'aurons pas des organisations professionnelles qui aient cette double fonction. Et c'est très difficile. Et la difficulté vient souvent de ce que, quand un représentant des professionnels accepte un compromis, il ne peut pas le vendre à sa base et se retrouve dépassé par une coordination ou un comité de survie. Au passage, je voudrais, sur cette question des marées dites vertes, souligner aussi que les afflux de nitrate ou de phosphate ne sont pas un problème de pollution marine. C'est un problème majeur dans les secteurs littoraux. Mais à l'échelle d'une mer et a fortiori d'un océan, la dilution va exclure les proliférations algales.
Oui.
Va permettre une augmentation des productions et certains considèrent cela comme un enrichissement. Là encore, il faut prendre garde au simplisme.
Donc,
nous avons là un phénomène localement grave, mais qui n'est pas un problème d'environnement marin. En outre, heureusement qu'il y a des algues vertes, nous ne mangerions pas grand-chose s'il n'y avait pas d'algues vertes. Il ne faudrait pas que l'algue verte devienne symbole de pollution diabolique.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Heureusement qu'il y a les algues vertes, nous ne mangerons pas grand-chose par là.
Les algues vertes sont un élément essentiel de la production primaire dans les océans. Vous avez différentes catégories de végétaux ou de bactéries qui produisent, et les algues vertes sont une vaste catégorie parfaitement respectable, aussi respectable que les algues rouges ou les algues bleues.
Oui, algues vertes, mais prolifération excessive d'algues vertes, c'est pas la même chose.
Ça n'est pas la même chose.
On est d'accord.
Ça illustre le fait qu'il faut toujours remettre des problèmes dans leur contexte.
Je comprends. Un problème de pollution littorale. Alors, il faut être exact sur les mots. Alors, je sais, et sur ce point, nous vous rejoignons à l'Union rationaliste, que vous vous agacez contre la montée en épingle de certains combats aveugles aux questions d'écologie générale, comme on l'a dit au début, comme le pointillisme sur certaines espèces et l'oubli d'autres espèces, et contre les simplismes écologiques dont certains médias se font les relais. Je pense par exemple à ces expressions peu rigoureuses dont nous avons parlé. Peut-être celle de pollution marine quand il s'agit de pollution littorale, celle d'écologie marine quand il s'agit aussi de la pollution des eaux douces, ou celle de septième continent quand on parle des plastiques visibles ou surtout invisibles. Expliquez-nous cela.
L'histoire des questions d'environnement, le fait que certains sujets créent plus d'empathie spontanée ou donnent de plus belles images que d'autres, font que le débat porte régulièrement sur des problèmes ponctuels. Je dois dire que les analyses scientifiques peuvent aussi compliquer la situation dans la mesure où nous avons des analyses extrêmement fines sur certains sujets, mais qu'il y a de vastes lacunes. Mmh. Mais dans le même temps, on ne peut pas traiter de questions d'environnement marin si on ne raisonne pas à la bonne échelle. Mmh. Et il faut faire émerger des stratégies globales qui permettre à chaque fois qu'on a un problème de le remettre dans son contexte. Dans la série mes regrets vis-à-vis de ce que la France pourrait faire mieux,
oui.
Il y a une directive cadre qui s'appelle Stratégie pour le milieu marin, qui date de 2008 et qui crée des obligations pour 2020. Mmh. Elle n'a toujours pas reçu de réponse satisfaisante. Cette directive demandait précisément à ce qu'on définisse par grand bassin maritime des stratégies globales qui partent de constats, qui identifient des problèmes plus graves que d'autres et qui organisent la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Je n'ai pas vu de progrès accompli dans cette direction. Dans le même temps, moi je vois ressurgir des problèmes qui passent bien à la télévision. Dans les années 80, on parlait déjà de dauphins et de phoques. On voyait les fous de bassin parce qu'ils font de belles images. Mmh. Mais nous ne voyons de progrès émerger que sur ces mêmes sujets et pas sur les questions globales. Par exemple, j'ai évoqué le fait que l'écologie marine bénéficiait des phénomènes de dilution dans l'océan. Mmh. Mais à l'inverse, il y a aussi des problèmes d'accumulation qui sont un peu spécifiques à l'écologie marine. Vous avez des accumulations de substances toxiques au long de la chaîne trophique. Les animaux qui mangent d'autres animaux peuvent concentrer certaines substances. Vous avez aussi des accumulations géographiques. Et je connais l'exemple de la mer Baltique. Et dans les sédiments de la mer Baltique, vous avez une accumulation de substances voisines de la dioxine qui date de l'époque soviétique où tout se rejetait dans les fleuves. Vous avez une accumulation, on ne sait pas comment traiter le problème, on n'en parle pas parce que c'est loin du visible. Dans les eaux profondes, vous avez aussi des phénomènes de circulation. On a longtemps considéré les eaux profondes comme un univers quasiment extraterrestre, on pouvait jeter ce que l'on voulait. Or, on sait maintenant que les circulations peuvent être lentes, mais exister. Et qu'il ne faut pas se contenter de s'inquiéter pour ce que l'on voit du littoral. Je sais qu'il y a même des projets pour utiliser les fosses océaniques profondes, qui font plus de 10 000 mètres, par certains qui voudraient y mettre des déchets. Ça, ce sont des problèmes majeurs. Ce sont des problèmes plus graves que la situation d'une espèce que l'on sait non menacée, mais qui fait de belles images.
Je comprends, je comprends. Est-ce que vous vous définiriez, et évidemment ma question a un présupposé, comme un rationaliste, Alain Lorek? Et est-ce qu'il faut être rationaliste pour comprendre ce qui se passe au niveau du milieu marin?
Alors, je dirais que j'essaie d'être raisonnablement rationnel. Je ne me reconnais pas dans l'oxymore de ceux qui ont foi en la science et qui sont convaincus que la science recèle à terme les réponses à tous nos problèmes. Je sais les lacunes des conclusions scientifiques disponibles par rapport à tout ce que l'on aimerait savoir pour prendre les meilleures décisions possibles. Je sais les incertitudes que l'on ne peut négliger. Je sais qu'il faut laisser du grain à moudre aux négociateurs et aux décideurs politiques. Je l'ai appris à mes dépens en sortant du monde scientifique pour jouer les interfaces. Mmh. Je sais qu'on ne change pas une société par décret ni par une directive. Je sais que les passions sont des moteurs plus forts que des arguments rationnels pour mobiliser la société et lui faire prendre en compte les enjeux environnementaux. Je salue les progrès accomplis. En revanche, je déplore le fait que la raison raisonnable passe de mode et que l'on se sente comme d'une essence supérieure parce que l'on a une intuition. Que l'on rejette des conclusions scientifiques avérées parce qu'elles ne plaisent pas. Je suis même frappé de voir que dans le domaine scientifique, la rigueur en écologie marine dans certains domaines, et surtout la pêche que je connais mieux, semble un peu passée de mode. Et l'on a des intuitions qui sont mises en avant et non confrontées avec les outils normaux pour valider une hypothèse. Les intuitions de certains notables semblent devoir être à l'abri d'une confrontation avec les faits.
C'est en cela, Alain Lorek, on l'aura compris que vous êtes vraiment un rationaliste. Et c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Je vous remercie.
Je vous en prie.
Le prix de l'Union rationaliste 2020 a été décerné à Gérard Noiriel le 24 juin dernier pour l'ensemble de son œuvre. Vous pouvez retrouver sa conférence sur le site de l'Union rationaliste et vous pourrez également la lire dans les cahiers rationalistes. Je rappelle les trois derniers numéros de Raison Présence, Casser, Casseur, Cassure, Crise et Expertise. Et le dernier numéro, le 218 sur le travail, auquel je vous renvoie. Je remercie Bernard Lagnel et Peyré Legras qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.